d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge avec vous au sommaire de cette édition du 15 janvier 2018. Non-lieu pour les militaires français accusés de viol d'enfants en Centrafrique. Mouvement de colère dans le sud Kivu en RDC après l'assassinat d'un cambiste. Nouveau trouble dans le sud-ouest du Cameroun. 10 morts dans des combats à Tripoli. Encore des réactions en Afrique sur les propos jugés insultants de Donald Trump. Et dans la page sportive, le CHAN Maroc 2018 sera à l'honneur. Et en cyclisme, premier coup de pédale sur la tropicale Amissa Bongo, c'est au Gabon. Non-lieu pour les militaires français accusés de viol d'enfants en Centrafrique. 3 ans après ces accusations, la justice française a écarté la perspective d'un procès, laissant des questions en suspens et des parties civiles déçues. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Les juges français ont rendu un non-lieu dans ce dossier clos sans aucune inculpation, conformément aux réquisitions du parquet de Paris. Dans son réquisitoire, le parquet a souligné que les incohérences et la variation des témoignages ne permettent pas d'établir des faits étayés à l'encontre des militaires. L'ONG Emmanuel Daoud a annoncé qu'elle ferait appel de l'ordonnance pour ne pas donner le sentiment que c'est terminé. Nous avons assisté depuis le début de l'enquête à la chronique d'un non-lieu annoncé, a réagi Rodolphe Constantino, avocat d'une autre association, Partie civile, Enfance et Partage. L'affaire a éclaté en avril 2015 lorsque le quotidien britannique The Guardian a fait état d'une note interne de l'ONU relatant les auditions des 6 garçons de 9 à 13 ans. Ils ont accusé des militaires de les avoir violés en échange d'argent et de nourriture entre décembre 2013 et juin 2014. Certains militaires ont affirmé avoir donné des rations alimentaires, mais ont nié tout abus sexuel.
Mouvement de colère contre l'insécurité dans le sud Kivu en RDC après l'assassinat d'un cambiste. Blanche Sanou nous en dit plus.
Des habitants, en majorité des jeunes en colère, ont détruit cette nuit le poste d'encadrement administratif de Kamagnola et ont brûlé tous les dossiers qui se trouvaient dans différents bureaux, a déclaré à l'AFP l'administrateur du territoire de Walangu, Dominique Bofondo. Un cambiste a été assassiné à son domicile dans la nuit de dimanche dans cette ville. Les habitants ont donc protesté pour dénoncer l'insécurité qui règne dans la localité. À la mi-journée, des policiers ont procédé à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Selon des témoignages, toutes les activités sont actuellement paralysées à Kamagnola. La route Bukavu-Uvira est barricadée. Les écoles et d'autres activités commerciales sont fermées.
Par ailleurs, 3 militaires congolais ont été tués dans l'est de la RDC dans une attaque attribuée aux rebelles ADF après plus de 2 heures de violents combats, selon un témoignage recueilli par l'AFP. Des parlementaires congolais ont déposé ce lundi une requête demandant l'annulation de certaines dispositions de la nouvelle loi électorale promulguée par Joseph Kabila. Première étape du calendrier qui doit aboutir à des élections le 23 décembre. Selon le député de la majorité Henri Thomas Lokondo, qui a initié cette démarche, certaines dispositions sont inconstitutionnelles. L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée ce lundi d'un haut risque de propagation de l'épidémie de choléra à Kinshasa. Les problèmes sanitaires et d'évacuation des eaux ont été aggravés par les récentes inondations dans la mégapole congolaise de 10 millions d'habitants. Au moins un gendarme a été tué dimanche dans le sud-ouest anglophone du Cameroun. La situation est toujours extrêmement tendue ce lundi, rapporte l'AFP, citant un responsable sous couvert d'anonymat, disant qu'il aurait été tué par des sécessionnistes dans le département du Dian. Dans une vidéo diffusée ce lundi par Boko Haram, 14 présumées lycéennes de Chibok déclarent refuser de rentrer chez elles. C'est la seconde vidéo de ce genre depuis mai, lorsqu'une jeune femme, affirmant être une des 219 lycéennes enlevées en 2014 dans l'état de Borno, était apparue brandissant une arme et refusant de rentrer chez elle. Rien n'indique toutefois quand et où ce message a été enregistré, ni si les jeunes femmes étaient sous la contrainte. Un homme armé a été tué dimanche lors d'accrochages avec des militaires sénégalais et un groupe d'hommes en armes en Casamance, où l'armée recherche les auteurs du massacre de 14 personnes, a indiqué un porte-parole militaire. Le parti au pouvoir au Libéria a annoncé dimanche l'exclusion de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Il lui est reproché de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Weah au second tour de la présidentielle le 26 décembre. Le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, Citoyens pour l'innovation, a annoncé la mort en prison d'un de ses militants dans la nuit de samedi à dimanche à la suite de tortures. Santiago Ebi Ela, 41 ans, militant de CI, est mort au commissariat central de Malabo à cause d'une torture cruelle, affirme un communiqué du parti. L'information n'a pas pu être confirmée auprès des autorités et les médias d'État n'en font pas état. Le parti CI exige des explications sur la mort du militant et que son corps soit restitué à la famille. La Tunisie a marqué dimanche le 7e anniversaire de sa révolution qui avait donné le coup d'envoi aux révoltes arabes, mais le pays demeure sous tension du fait de la grogne sociale. Et Ekki Abadou.
C'était le 14 janvier 2011. Ben Ali fuit alors vers l'Arabie Saoudite après 23 ans au pouvoir à l'issue d'une révolte populaire déclenchée par l'immolation par le feu en décembre d'un jeune vendeur ambulant à Sidi Bouzid, excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Le soulèvement fait 338 morts et plus de 2000 blessés et donne lieu à des centaines d'arrestations. La révolution de Jasmin allait lancer la vague des printemps. Dimanche, il n'y avait pas les scènes de liesse d'il y a 7 ans lorsque la foule applaudissait la chute du président Ben Ali. Après les troubles qui ont éclaté en début de semaine, des centaines de personnes ont défilé dimanche dans le calme dans les provinces et dans la capitale. Les manifestants continuent de réclamer la fin des mesures d'austérité. En Tunisie, quelques 600 000 personnes sont au chômage, dont 30% de diplômés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
7 migrants africains sont morts en tentant d'atteindre l'île de Lanzarote dans l'archipel espagnol des Canaries, ont annoncé ce lundi les autorités. Les forces de l'ordre alertées par un habitant ont trouvé près de la côte un zodiaque à l'intérieur duquel il y avait 5 cadavres, dont 3 pourraient être des mineurs, selon un porte-parole de la garde civile, ajoutant que 2 autres occupants de l'embarcation étaient morts peu après avoir atteint l'île. Face à une polémique qui enfle sur des propos jugés insultants qu'il aurait tenus lors d'une réunion avec des parlementaires, le président américain Donald Trump a indiqué hier qu'il n'était pas raciste. En Afrique, les réactions continuent. Abdourahman Dia.
Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée. Je peux vous le dire. Le président Donald Trump était obligé de répondre à une question d'un journaliste depuis son club de golf de West Palm Beach en Floride où il dînait dimanche avec le chef de la majorité de la Chambre des représentants. Une question à laquelle il a refusé de répondre vendredi. Donald Trump avait déjà affirmé dans un tweet n'avoir jamais dit de mal des Haïtiens après avoir déjà nié l'utilisation de l'expression insultante qu'on lui a prêtée lors d'une réunion sur l'immigration jeudi à la Maison-Blanche. 2 sénateurs républicains ayant pris part à cette rencontre sont venus à sa défense, affirmant n'avoir pas entendu de tels propos. Après le Botswana et le Sénégal, l'Afrique du Sud a convoqué ce lundi l'ambassadeur des États-Unis à Pretoria pour s'expliquer, jugeant le démenti vendredi du président Trump pas assez catégorique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Faki, a aussi convoqué aujourd'hui la représentante de Washington auprès de l'UA à Addis Abeba pour lui faire part de l'indignation de l'organisation qu'il dirige.
Et puis le pape François, en route pour une visite d'une semaine au Chili et au Pérou, a déclaré que le monde était à la limite du risque de guerre nucléaire et expliqué que la situation le terrifiait. Il s'exprimait dans l'avion au surlendemain d'une alerte aux missiles qui s'est avérée sans objet, ayant semé la panique à Hawaï, alors que la Corée du Nord laisse planer la menace d'une attaque nucléaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakidza.
La société minière britannique Gem Diamonds a extrait au Lesotho un diamant d'une masse exceptionnelle de 910 carats. Il est déjà considéré comme l'un des 5 plus gros jamais découverts sur la planète et pourrait valoir jusqu'à 33 millions d'euros. Cette découverte a fait grimper le titre de Jem Diamond à la Bourse de Londres par une hausse de 14%. Accord entre le Rwanda et la Tanzanie pour la construction d'une voie ferrée de 400 km reliant Isaka à Kigali. Elle va favoriser les échanges commerciaux avec le Rwanda. Ce tronçon doit également concurrencer un projet similaire entrepris au Kenya qui devra relier le port de Mombasa à l'Ouganda et au Rwanda. Les travaux devraient débuter cette année. L'Égypte est désormais le troisième producteur mondial de fibres de verre aux côtés des États-Unis et de la Chine. La production annuelle a atteint environ 200 000 tonnes et 99% sont orientées à l'exportation. L'usine a également permis d'offrir 2 000 emplois directs.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Championnat d'Afrique des Nations, Chan Maroc 2018 pour commencer. Le premier match du groupe C est en cours et oppose la Libye à la Guinée équatoriale.
Tout à fait, Nathalie. Les chevaliers libyens de la Méditerranée mènent 2-0. Saleh Al-Tahir a ouvert le score à la 12e minute avant de récidiver 5 minutes plus tard. Le match est à sa 52e minute. La seconde rencontre du jour dans ce groupe C opposera le Nigeria au Rwanda. Une première grande compétition pour le coach des Amavubi, rwandais Antoine Hey, en poste depuis l'année dernière. Coup d'envoi 19h30, temps universel.
Et hier, ce fut la journée des surprises avec les chutes d'entrée des éléphants et du Sili national.
Les Ivoiriens battus 1-0 par le petit pousset de ce Chan 2018, la Namibie, surprenante deuxième au classement du groupe B. Néanmoins, le sélectionneur ivoirien Ibrahim Camara conjugue cette défaite au passé et veut se concentrer sur les matchs à venir. Et donc Ibrahim Camara, qu'on ne pourra pas écouter. Les Chipolopolo de la Zambie sont en tête de ce groupe B grâce à leur victoire 3-1 devant les Crânes de l'Ouganda. Désillusion également pour la Guinée. Surprise par le Soudan 2-1 dans le groupe A. L'AP Bangoura, sélectionneur du Sili national local, nous analyse cette défaite d'entrée.
Le contenu en tant que tel n'a pas été trop mauvais, mais je crois que sur le plan défensif, on n'a pas été très solide. Sur le peu d'occasions que le Soudan a eu, il a été réaliste. Et puis ensuite, sur le plan offensif, malgré les occasions obtenues, on n'a pas été réaliste. Je pense le manque de réalisme et la solidité au niveau de la défense. Je pense que cela est un peu quand même dû à une certaine expérience parce que les deux qui ont joué dans l'axe, c'est leur première compétition de ce niveau. Après, dans l'ensemble, quand tu prends le Soudan qui a été très bien sur les contres, sur les balles aériennes, je crois en voyant le match en tant que tel, je pense, l'entraîneur vient de le dire, le match nul pouvait être équitable ou pourquoi pas nous. Moi, je pense, dans l'ensemble, on n'a pas été très bon défensivement et on n'a pas été réaliste.
C'était donc l'AP Bangoura, sélectionneur du Sili national local. Le Maroc vainqueur samedi de la Mauritanie reste donc leader du groupe A avec 3 points à égalité avec le Soudan. Et donc, on l'annonçait tout à l'heure, on reviendra pour écouter Ibrahim Camara qui conjugue la défaite des éléphants au passé et qui veut se concentrer sur les matchs à venir.
On s'est pas rendu la tâche facile en début de compétition. Maintenant, il va falloir retrousser les manches pour faire un meilleur résultat le match prochain. De toute façon, après une défaite, faut laisser la défaite passer. On a encore des jours devant nous pour travailler. On va travailler tout ce qui n'a pas été pour que les matchs à venir, on soit beaucoup plus incisif offensivement et qu'on mette un peu plus de vitesse dans notre jeu. Je pense que ça va être l'une des clés pour les matchs qui arrivent.
C'était donc Ibrahim Camara, sélectionneur des éléphants locaux de Côte d'Ivoire.
Autre nouvelle sportive, Yacouba, dans les tribunaux. Cette fois, le TAS confirme la radiation de Joseph Lamte.
Joseph Lamte n'a plus de voie de recours. La FIFA a confirmé aujourd'hui avoir pris bonne note de la sentence du tribunal arbitral du sport TAS, confirmant la suspension à vie de l'arbitre ghanéen. D'après les conclusions du TAS, Lamte est reconnu coupable d'avoir volontairement pris de mauvaises décisions dans le match Afrique du Sud-Sénégal dans le but de permettre qu'un certain nombre de buts soient marqués afin que des parieurs puissent toucher leurs gains. Rappelons que ce match joué le 12 novembre 2016 et réjoué l'année dernière, donc 2017, comptait pour la qualification du Mondial 2018.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Bénin, la semaine s'annonce très dure pour le gouvernement. Après les agents de la santé, de la justice et les 6 centrales syndicales, le Front d'action des syndicats de l'éducation projette également d'entrer en grève à partir de mardi. Ils protestent tous contre le retrait du droit de grève aux magistrats, aux agents de la santé et aux forces de sécurité. Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
En votant la loi sur le retrait du droit de grève à certains travailleurs, les députés étaient loin d'imaginer que cela pourrait paralyser tous les secteurs d'activité. Même le président de l'Assemblée nationale s'est senti obligé de se justifier afin de lever tout équivoque. Pour Adrien Rumbedji, c'était un devoir républicain d'être compatissant envers les populations qui récoltent les plus graves préjudices pendant les mouvements de grève dans les secteurs concernés.
Nous aurions aimé ne pas toucher à ce droit. Nous avons dû le faire. Parce que des abus sont commis dans l'exercice de ce droit. C'est le lieu de le dire, c'est mon devoir.
Les travailleurs du secteur de la justice ont été assez clairs sur la nécessité de retirer cette loi qui, selon eux, est une restriction des libertés. Ceux de la santé pensent que le gouvernement a manqué à sa promesse en se portant complice du vote d'une telle loi.
Il veut nous retirer le droit de grève et nous allons réclamer, reprendre ce droit de grève par la grève. Et nous allons déclencher la grève. Vous êtes en négociation avec les gens. Vous avez promis des choses après la grève et nous sommes tu malgré qu'on n'ait pas encore eu tout eu et vous décidez de nous supprimer le droit de grève. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas tenir promesse.
Mardi prochain, les écoles fermeront leurs portes de l'enseignement primaire jusqu'au supérieur. L'heure est grave et le feu qui arrache le toit du voisin peut vous surprendre si vous ne faites rien, a précisé le porte-parole du Front d'action des syndicats de l'éducation.
Nous constatons que les libertés sont en train d'être attaquées et violées. Les travailleurs du secteur de l'éducation veulent aller en grève pour poser les problèmes de carrière, mais sans occulter aussi les problèmes de liberté, parce qu'il faut jouir du droit de grève avant de pouvoir l'exercer, et cela n'arrive pas qu'aux autres.
Dans le rang des populations, les avis sont partagés. Certains trouvent que les travailleurs âgés n'ont pas brandi d'office l'arme de la grève chaque fois qu'ils sont mécontents.
Ça, ce n'est pas bon, on doit l'irradier. Ils sont en train de préparer la population. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
À part la grève, il y a plusieurs autres actions syndicales.
Il y a quelques jours, les centrales syndicales ont tenu un sit-in devant le Parlement pour, disent-ils, aller rappeler aux députés qu'ils doivent voter des lois pour le bien-être du peuple et non pour les intérêts du chef de l'État. Pour le député Gildas Agonkan, c'est bien pour la sauvegarde des intérêts du peuple que cette loi a été votée.
Nous pensons que la grève dans un nombre de domaines de 7 heures dans notre pays a été un peu dans une logique d'abus et avec des conséquences dommageables pour les populations. Et nous avions pensé que pour pallier à tout ça, faille interdire, refuser la grève à un certain nombre de corps.
En attendant que la Cour constitutionnelle ne donne son avis sur cette loi, la lecture que chaque camp fait de l'article réservé au droit de grève des travailleurs dans la Constitution en vient même à semer le doute dans l'esprit des populations. Pour les travailleurs, la paralysie de tous les secteurs d'activité cessera avec le retrait de la loi. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces armées du Mali se préparent à lancer une vaste opération de sécurisation des régions centrales. L'objectif est de traquer tous les groupes terroristes et djihadistes qui y sévissent. Cette opération vise aussi à permettre le retour de l'administration et l'organisation des élections générales cette année. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus.
De Tenzawaten à Labezanga, d'Andraboukan à Hermakono, aucune localité du Mali n'échappe à des attaques terroristes ou djihadistes. Mieux, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. C'est pour cela que plus d'un millier de militaires seront déployés dans les centres du pays pour renforcer une ancienne initiative de l'armée malienne. Général de brigade Bemba Moussa Keïta, chef d'état-major général des armées du Mali.
Je puis rassurer nos populations que nous allons amplifier la mutualisation des moyens de l'opération d'armée, ceux du plan de sécurisation intégrée des régions du centre, avec ceux des partenaires pour créer un environnement favorisant le développement socio-économique et culturel et permettant la tenue des élections générales de 2018.
Ségou et Mopti sont les deux régions concernées par cette opération. Hassan Kone de NotreNation.com.
Cette initiative-là est plus que nécessaire. Si une telle action n'est pas conduite, il sera très difficile de parler de sécurité au Mali. Le front de l'insécurité qui résidait dans certaines localités du Nord depuis un certain temps s'est déplacé dans le centre du Mali et est en train de glisser vers le centre-est du Mali. Donc il est tout à fait normal, en prévision des échéances électorales futures, que le Mali rassure en ramenant la sécurité sur une grande portion du territoire et de façon très urgente.
Cette opération ne doit pas se limiter aux seules régions du centre. C'est ce que pense Sidi El-Mehdi Al-Baka de Kida.
La coalition entre les hommes d'Amadou Koufa et Yadegarani est une réalité. Donc le problème du centre est le même problème du nord qui s'est juste déplacé. Il nous manque aussi ces entretiens entre les chefs des fractions, les chefs des villages. Il y a une nécessité de jouer la carte de l'information, de la sensibilisation, mais surtout des renseignements.
Le volet sécuritaire est déjà opérationnel avec ses quatre grands axes. Général de brigade Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.
Il est vrai qu'il y a une certaine instabilité dans cette partie de notre pays. Ce plan vise donc à corriger cette instabilité-là à travers les piliers sécurité, gouvernance, développement et communication. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas résoudre ces problèmes-là par la simple force armée. Il fallait que l'administration soit là, et qu'il fallait parler avec la population et qu'il fallait aider la population pour qu'elle puisse rester avec des actions de développement.
Le plan intégré de sécurisation des régions du centre a réalisé des actions dans la région de Mopti. C'est ce que nous explique le général Salif Traoré.
Nous avons déjà deux sites stratégiques dans la région de Mopti qui sont occupés aujourd'hui par les forces de sécurité. Et dans le premier site qui est Kouakrou, nous avons déjà l'administration, l'école, la santé, tout est revenu et la vie reprend là-bas. Nous allons donc mettre les bouchées doubles pour que dans les trois mois à venir, nous puissions être présents dans l'essentiel de cette zone-là pour que la population civile puisse retrouver le calme.
Les populations maliennes attendent de voir le début des opérations militaires s'ils vont retrouver leur quiétude d'antan. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ici Kabadou et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive. À votre avis, les États-Unis observent ce lundi 15 janvier la journée de Martin Luther King. Ce jour férié aux États-Unis marque l'anniversaire du révérend Martin Luther King. Que représente-t-il pour vous? Que reste-t-il de son discours « I have a dream » Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Au Togo, un laboratoire d'expérimentation mobile va désormais sillonner le pays pour permettre aux élèves de ces écoles d'allier la théorie à la pratique. Il s'agit du projet MOLAB, piloté par l'ambassade des États-Unis. Les détails dans un reportage de Kay Lawson.
Rares sont les écoles togolaises qui disposent en leur sein des laboratoires d'expérimentation scientifique. Des collèges et lycées se contentent des cours théoriques en physique, en chimie ou encore en sciences de la vie et de la terre. Face à ce manquement qui inhibe le goût de la chose scientifique chez ses élèves, le projet MOLAB pour Mobile Laboratory en anglais est initié pour y pallier. Pour sa première sortie, ce laboratoire ambulant était dans les locaux du lycée d'Adamawa dans la banlieue est de Lomé, où des élèves ont fait pour la première fois des expérimentations. Catherine Amélé Agbaglo, élève en classe de terminale scientifique.
On n'a pas de laboratoire dans notre établissement. C'est la première fois que je procède à une telle expérience. Le fait que nous faisons des cours et des pratiques, des théories là, comme on n'a pas de laboratoire dans notre établissement, ça pose beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'on ne comprend pas du tout ce que le professeur nous fait en classe.
Le projet MOLAB, une conception de l'ambassade des États-Unis au Togo, entend relever le niveau de l'éducation togolaise. Mike Prayer, chef de la section affaires publiques de cette ambassade.
Beaucoup d'élèves au Togo manquent l'accès à une éducation de qualité. Donc l'idée de MOLAB,
Code Lab est de fournir une éducation de qualité à chaque élève, n'importe où ils vivent ou combien d'argent leurs parents gagnent. Chaque élève mérite une éducation de qualité.
Ce projet a été réalisé grâce à l'appui de Contour Global, une société de production d'électricité au Togo. Il s'agit d'un investissement dans les ressources humaines, explique Yafo Pandam, directeur des programmes d'investissement social et environnemental à Contour Global.
Nous estimons que notre activité, qui est une activité industrielle, ne peut être durable que si nous avons formé des ressources humaines. Si nous n'avons pas des gens bien formés dans le futur, notre business ne pourra pas tenir aussi longtemps dans notre pays.
Un laboratoire mobile est une belle initiative. Cependant, Eho Afi Ablodevi, proviseur du lycée d'Adamawa, plaide pour l'installation d'un laboratoire d'expérimentation dans son établissement.
Les élèves ont fait les expériences, mais plus tard, la voiture va partir. Donc, nous voulons un laboratoire fixe dans l'établissement. Comme ça, quand les cours vont finir, les enfants pourront aller dans ce laboratoire pour faire les expériences.
Dans ce bus laboratoire, des initiations à l'informatique sont également proposées aux élèves. Sabine Messant découvre pour la première fois l'imprimante 3D.
Aujourd'hui, on a eu la visite de certains messieurs qui sont venus avec le bus. On a vu l'imprimante 3D. On nous a expliqué comment l'utiliser. Si un objet se cache, tu veux le réimprimer, comment faire. Et le monsieur nous a dit, si on voulait devenir comme lui, il fallait juste travailler. Moi, j'ai adoré. C'était très bien. On aimerait que ça revienne encore une fois dans notre établissement.
La mission du Molab finit au lycée d'Adamawa. Le laboratoire mobile quitte cet établissement scolaire pour une autre école où attendent des élèves impatients de faire une première expérimentation de laboratoire. Kainoson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La journée Martin Luther King est célébrée ce lundi aux États-Unis pour rendre hommage aux militants des droits civiques assassinés en 1968. Abdourahmane Dia a demandé au professeur Souleymane Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York si MLK Day avait toujours sa raison d'être.
Je ne vois pas très bien d'ailleurs le sens du raisonnement qui est ainsi produit par les conservateurs, parce que célébrer l'action historique d'un personnage historique comme Martin Luther King, c'est quelque chose qui s'impose à nous, quelles que soient les circonstances. Même si son combat était aujourd'hui couronné de succès, il faudrait quand même le saluer, ce combat, et le célébrer.
Cette journée Martin Luther King est célébrée dans un contexte de polémique sur des propos insultant qu'aurait tenu le président Donald Trump à l'endroit des pays africains et de Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment pour les relations interraciales aux États-Unis aujourd'hui?
Alors justement, je noterai d'abord que ces circonstances que vous évoquez, le contexte que vous évoquez, manifestent bien que le raisonnement des conservateurs disant qu'il n'était plus nécessaire de célébrer le combat de Martin Luther King n'a pas lieu d'être. Ce raisonnement est totalement invalidé, précisément par les circonstances actuelles qui montrent que la fameuse phrase de W.E.B. Du Bois disant que le problème du XXe siècle était le problème de la race, au fond, cette phrase est vraie et sa signification est en train de déborder sur le XXIe siècle.
Beaucoup de leaders d'opinion de la communauté noire ici aux États-Unis ont vigoureusement réagi à ces propos qu'on prête au président. Est-ce que cela veut dire que la communauté afro-américaine s'identifie à ses origines africaines ou c'est plutôt son leadership seulement et pas le reste de la communauté afro-américaine?
Écoutez, c'est une question importante et difficile que vous posez là, parce que c'est vrai, j'aurais tendance à penser que les leaders de la communauté africaine-américaine sont évidemment tout à fait conscients du...
C'était une analyse politique donc du professeur Souleymane Bachir Diagne, joint à New York. Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était José Le Morissin. La console, Joe Gill. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.